etc. avec notre invité, le docteur Jean Gérin, infectiologue, je vous le disais, et chef du service médecine interne à Chirec. Bonjour docteur Gérin.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté, ben, pour la seconde fois, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas entendu, d'avoir accepté notre invitation, disais-je. Et ma première question, bien, elle sera la suivante. Apparemment, dans les hôpitaux, dans les journaux en tout cas, on nous dit que cela va mieux. D'une part, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et secondo, qu'en est-il dans votre hôpital? Je rappelle que vous travaillez à Chirec.
Écoutez, oui, effectivement, d'une manière générale, dans tous les hôpitaux, je crois, depuis quelques semaines maintenant, on assiste à une diminution du nombre de nouveaux cas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas une pression importante, et en particulier au niveau des soins intensifs, puisqu'on sait que des patients atteints d'infections Covid sévères, qui doivent malheureusement être pris en charge dans les unités de soins intensifs, vont y passer de nombreuses semaines. Mais en ce qui concerne les hospitalisations, je dirais pour des cas moins graves, on assiste à une lente diminution, effectivement.
Bien, ben alors justement, vous parliez des soins intensifs et de la période plus ou moins longue, et plutôt longue d'ailleurs, que vous évoquiez. On va venir, c'est difficile de ne pas parler des variants, parce que très souvent, eh bien, on nous a parlé du variant indien, sud-africain et anglais, bien évidemment. Et beaucoup de gens disent que ces variants sont moins létaux, on va dire qu'ils tuent moins, mais qu'effectivement, ils nécessitent, je dirais, une présence dans les soins intensifs plus longue. Est-ce que ce n'est pas là le réel danger de ces variants définitifs?
Ben, écoutez, d'abord, parler de variants est un... C'est une sorte de lieu commun, c'est-à-dire que le but, la vie normale de ce genre de virus est de muter, donc de muter en permanence, et donc on a comme ça des variants qui se succèdent dans le monde entier. C'est un premier point. Et donc après ces variants déjà décrits maintenant, que ce soit les Indiens, Brésiliens, Afrique du Sud et autres, on aura évidemment en permanence de nouveaux variants. Un autre point qui est fréquent mais qui n'est pas absolu, c'est que au fur et à mesure que ce virus mute, se transforme, il a tendance à être peut-être plus contagieux mais moins agressif. Mais ça, pour l'instant, en tout cas avec le variant anglais, ça n'a pas encore été vérifié. Et je dirais que on suit ça de très très près parce que évidemment le corollaire ou plutôt l'interrogation et la crainte que nous avons, c'est que l'efficacité des vaccins actuellement à notre disposition diminue face à ces variants.
Mais justement, c'est la question que le quidam que je suis se pose. Chaque fois qu'un nouveau variant apparaît, est-ce que ça veut dire que les médecins doivent reprendre en quelque sorte leur travail d'une page blanche? Il faut chaque fois remettre le métier sur l'ouvrage, ou bien est-ce que la base de la recherche et les vaccins sont déjà une bonne base, je dirais, pour se battre contre ces virus?
Oui, non, on ne repart pas d'une page blanche. Et c'est une grande avancée au niveau médical et au niveau de la vaccinologie, entre autres. C'est que on suit en permanence, donc dans le monde entier, il y a une collaboration vraiment totale de tous les centres de recherche. On suit en permanence l'apparition de ces variants et en permanence aussi l'efficacité des vaccins que l'on a déjà aujourd'hui contre ces variants-là. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on publie des résultats donc de testing de ces vaccins que nous avons, qui sont aujourd'hui administrés face à ces nouveaux variants. Parce qu'il va de soi que si on se rendait compte que les vaccins actuellement à disposition devaient perdre beaucoup de leur efficacité face aux nouveaux variants, eh bien immédiatement, les firmes mettraient au point des nouveaux vaccins qui ne seraient jamais qu'une adaptation des vaccins que nous avons déjà aujourd'hui, et donc des nouveaux vaccins visant plus spécifiquement ces nouveaux variants.
Bien, et justement concernant cette période d'immunité, est-ce que vous iriez dans le même sens que les médias qui se font généralement l'écho d'experts en disant que ce soit Pfizer, Moderna ou autre AstraZeneca, eh bien la couverture ne sera en aucun cas permanente.
Écoutez, l'avenir nous le dira. Il est probable que la couverture ne sera pas permanente, mais qui peut dire aujourd'hui quelle sera la situation dans 6 mois ou dans 1 an? Vous savez, il y a des antécédents. Il y a un autre coronavirus qui a disparu tout seul, c'était le fameux MERS. Il a sévi pendant quelques mois et puis tout d'un coup, il a disparu. Ici, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait peut-être arriver aussi à l'avenir. Alors, quelle est l'efficacité, la durée de l'efficacité des vaccins actuels? C'est en tout cas de très nombreux mois, mais il faut vraiment interpréter ça en tenant compte aussi du risque d'apparition de variants contre lesquels ces vaccins seraient peut-être moins efficaces. Donc il faut vraiment intégrer ces deux données-là.
Bien sûr, mais quand on voit le temps qu'il a fallu, je ne parle pas que de la Belgique, parce que la Belgique est sous l'égide de l'Union européenne, tout le monde le sait, quand on voit le temps qu'il a fallu pour mettre en place la politique de vaccination, s'il fallait faire des piqûres de rappel, je le dirais, dans 8 mois ou 1 an, est-ce que vous pensez qu'on aura la structure pour pouvoir y répondre efficacement et surtout rapidement ?
Ah, écoutez,
on n'a pas de boule de cristal.
Je ne pouvons malheureusement pas beaucoup agir. Enfin, les scientifiques n'ont aucun pouvoir sur le politique et donc sur la mise en place d'une logistique efficace. Tout ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, nous avons perdu. Et je ne parle pas que de la Belgique, mais de nombreux pays européens, entre autres, on a perdu un temps précieux parce que les vaccins étaient là, étaient fabriqués, mais n'étaient pas distribués. Et donc, on a perdu des semaines et des semaines. Alors que, par exemple, pendant ce temps-là, en Israël, on vaccinait à tour de bras, ce qui fait que maintenant, ce pays-là a à peu près 3 mois d'avance sur nous.
Bien, ben, je vous remercie de le souligner sur Radio Judaïka. Ça a un écho tout à fait particulier, vous vous en doutez. Et puis, je vais m'adresser, ce sera ma dernière question, docteur Gérin, ou en tout cas, l'avant-dernière à tout le pire. je m'adresse à l'infectiologue et au médecin que vous êtes. Est-ce que vous pensez, au regard des récents événements de la place Flagey, du bois de la Cambre, de la Boum, est-ce qu'il est envisageable, selon vous, en Belgique, qu'on atteigne l'immunité collective à plus ou moins brève échéance, ou bien il faudrait d'abord calmer tous les dingues, et ça n'engage que moi ce que je dis là, qui ne prennent plus aucune précaution, ou quasiment plus. Voilà, on l'évoquait dans le journal tout à l'heure, Place Flagey ce week-end, il y avait que quasiment le bourgmestre, Christophe Doulkeridis, qui était masqué, alors qu'il y avait plus de 1000 personnes sur place. Est-ce que si on agit comme ça, vous avez l'impression qu'on va quand même pouvoir s'en sortir, ou bien il faut vraiment que chacun revienne à la raison?
Mais je pense que il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a une vulnérabilité, donc une faiblesse de certaines personnes plus que d'autres, et donc que des jeunes en bonne santé s'échangent éventuellement le virus. C'est sans doute regrettable et on aurait aimé l'éviter, mais d'un autre côté, eux, dans l'énorme majorité des cas, ne feront qu'une infection banale. Il faut quand même rappeler que le danger principal qui est visé par ces mesures de confinement ou de contrôle, c'est d'éviter que ces jeunes-là en bonne santé ne retournent chez eux, n'aient des contacts avec des gens immunodéficients, enfin immunodéprimés ou des personnes âgées. C'est ça le point. Et donc je crois que il est impossible de continuer, enfin, à mes yeux, il est évidemment impossible de continuer un confinement strict pendant encore des mois et des mois, ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce qui reste fondamental, c'est de continuer à protéger de manière maximale les personnes à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes importants, tant au niveau cardiaque, pulmonaire, rénal, etc. Et donc, je pense qu'il faut, évidemment sortir le plus vite possible de ce confinement. Maintenant que aussi une bonne partie de la population à risque est vaccinée, parce que je rappelle quand même que la vaccination de ces personnes à risque, c'est une protection qu'on leur offre. C'est très important.
Bien sûr, c'est une protection qu'on leur offre, et je pense qu'il est bon aussi de rappeler aux gens qui nous écoutent que s'ils sont protégés en étant vaccinés, ils restent des vecteurs de transmission du virus, si j'ai bien compris. Hein, on est bien d'accord?
Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est un point qui est très important. Et en même temps, il y a un deuxième message, il y a un corollaire qui est un message d'espoir. À partir du moment où des personnes qui ont été entièrement vaccinées, donc qui ont reçu les 2 doses de vaccin, s'ils n'avaient pas fait une infection Covid avant. À partir du moment où des personnes totalement vaccinées se retrouvent ensemble, même dans des espaces fermés, il ne faut plus de gestes barrières, il ne faut plus de masques. On peut vivre comme avant. À condition donc que dans la pièce, il n'y ait que des personnes totalement vaccinées. Donc ça, c'est un message d'espoir. Par contre, quelqu'un qui a été entièrement vacciné, s'il croit à quelqu'un qui, lui, n'est pas protégé, il peut évidemment transmettre le virus. Lui ne sera pas malade parce qu'il est protégé par sa vaccination, mais il peut éventuellement héberger un petit peu de virus dans son nez, dans ses fosses nasales, et s'il ne respecte pas les gestes barrières, transmettre ce virus à des personnes à risque qui pourraient, elles, faire une infection grave. Donc, c'est très important...
Oui, oui.
C'est très important, même pour les personnes vaccinées, de continuer à respecter les gestes barrières lorsqu'on est en face de quelqu'un à risque.
Ben oui, j'imagine que c'est la condition sine qua non pour atteindre, et j'en reviens à ma question de tout à l'heure, pour atteindre cette immunité collective qu'on appelle de tous nos voeux, j'imagine. Est-ce que vous êtes d'accord en tant qu'infectiologue, le chiffre qu'on avance généralement de 70% de la population vaccinée pour atteindre cette immunité, c'est réaliste ou bien il faudrait davantage ou peut-être se satisfaire de moins?
Mais ça dépendra, ce chiffre de 70% est très théorique et ça dépendra de la prévalence de l'infection. C'est-à-dire que si on voit que le risque viral diminue, eh bien alors le pourcentage que l'on devra atteindre de gens vaccinés va évoluer aussi. Je dirais que globalement, on estime que pour une immunité collective, on doit arriver à un chiffre approximatif de 70%. Mais j'insiste, il faut quand même garder à l'esprit que ce qui est essentiel, c'est de vacciner d'abord les personnes vulnérables. C'est la politique qui a été prise dans tous les pays, et c'est vraiment ça qui est très important. Chez les jeunes, la transmission, la propagation du virus va entraîner des maladies bénignes, voire pas de maladies du tout. Et donc, c'est vraiment très important de cibler encore aujourd'hui la vaccination pour les personnes à risque.
Bien, docteur, infiniment merci d'avoir accepté notre invitation et pour votre éclairage. Voilà, j'espère qu'on a pu apporter des éléments de réponse aux questions que se posent certains de nos auditeurs. Je vous souhaite de bien vous porter et de rester surtout en bonne santé. Merci pour votre collaboration, docteur. À très bientôt, j'espère.
Oui, je vous en prie. Merci à vous et passez une bonne journée.
Merci, belle journée à vous. Prenez soin de vous.
Oui, vous
What's up, Doc?